La suite de La Rose des Vents ce soir est plein feu sur un projet théâtral initié par Elengo, une jeune association congolaise de Lausanne. On les a déjà reçus il y a quelques semaines et c'est l'occasion de les recevoir à nouveau pour parler d'un de leurs projets qui est de mettre en scène le livre de Germain Dimbézi, Procès Mobutu, paru en 2010 aux éditions Percé. Alors depuis quelques mois, la troupe Congo Pips, créée par Elengo, se réunit tous les mercredis au 221, un théâtre de Lausanne, pour répéter et se glisser dans la peau des jurés, des avocats qui jureront feu Mobutu. 17 ans après sa mort, ce président hante encore ceux qui ont connu l'empire Mobutu et il règne plus de 30 ans sur l'ex-Zaïre de 1965 à 1997. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de retrouver Idra Poati. Vous êtes président d'Elengo et le porteur de projet de cette association. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons également autour de la table Germain Dimbézi, journaliste, et vous êtes l'auteur de la pièce. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, une femme, Laetitia Garcia, responsable des comédiens de Congo Pips. Vous assistez le metteur en scène. Bonsoir.
Bonsoir.
Je me tourne vers le président pour commencer. Idra, pour quelle raison l'association Elengo a-t-elle choisi de mettre en scène le procès Mobutu ?
Alors, ça a commencé en fait avec un grand coup de cœur. En découvrant en fait la pièce de Germain. En fait, c'est un ami qu'on avait en commun qui m'avait parlé en fait d'un auteur congolais qui vivait à Lausanne. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, on était en recherche justement d'œuvres et d'auteurs à pouvoir promouvoir. Et j'ai vraiment été totalement séduit par son idée, en tout cas, de faire un procès d'un président qui a duré aussi longtemps. On n'a pas justement l'habitude. En Afrique, et du coup, on s'est dit, on va essayer de faire la promotion, et on a proposé en fait de faire ça au 221 par l'intermédiaire de Monsieur Pahu et Michel Sauzet, qui ont répondu favorablement à notre appel.
Alors, Idra, quel est le sens de cette démarche par rapport au but de l'association Elengo ?
Nous faisons justement de la promotion culturelle congolaise ici en Suisse. Et je trouvais que justement, les 30 ans, justement, comme vous avez expliqué, de pouvoir sans partage de Mobutu, c'est quand même un épisode extrêmement important dans l'histoire de notre pays d'origine.
Daniel, tu as préparé en détail et tu n'as pas encore vu la pièce, j'imagine.
Pas encore. Normalement, en fait, elle devrait être programmée pour la fin du mois de décembre 2015, si tout va bien. On a le plaisir d'avoir Germain avec nous. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu ce que c'est que Procès Mobutu. Et vous vous êtes appuyé, en fait, dans votre ouvrage sur une citation de Jacques Vergès qui disait que l'on connaît bien l'histoire d'un pays au travers de ses procès.
Oui, bien sûr. Alors, le Procès Mobutu, c'est un livre de fiction politique qui met en scène les jugements d'un dictateur africain déchu. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de raconter dans le livre, en fait.
Mais comment ça se passe ? Parce que c'est un livre qui fait 164 pages, qui met en cause plusieurs acteurs, dont des avocats,
Bien sûr,
des jurés. Pour regarder un petit peu la trame, il semblerait que Mobutu, au départ, dans cette histoire, ait refusé d'avoir un avocat. Et vous pourriez nous expliquer ce passage, comment est-ce que finalement il a accepté ?
Oui, justement, je me suis basé sur un travail de profilage, en fait. Parce que Mobutu étant un dictateur, je l'ai personnellement connu, j'ai vécu sous son air. Donc c'était généralement les dictateurs, c'est des personnes hautaines, c'est des mégalomanes en fait. Donc il se voyait, lui-même il s'appelait Aigle, donc il était au-dessus de tout.
L'aigle de Kawele.
Ouais. Il lui était difficile de se soumettre à quelconque loi. Donc il voyait les jurés, il voyait les tribunaux trop petits pour lui. Parce qu'il se voyait trop grand, voilà. Donc au départ, c'était ça, il ne voulait pas, mais avec l'insistance de ses conseils, en fait, il a fini par accepter et les procès étaient engagés.
Donc la trame du livre repose sur ce procès et qui met en scène, donc, je crois, 24 jurés et deux avocats. Est-ce que vous pourriez nous raconter plus en détail le contenu, en fait ?
Le contenu, c'est que déjà... avant, en Afrique, l'Afrique, il est rendu tristement célèbre aussi par ses dictateurs. Ça, il faut le dire, qu'on se le dise. Hein. Et puis, la plupart des temps, ces dictateurs-là, ils font ce qu'ils font, mais ils ne sont jamais jugés. Soit ils meurent assassinés, soit, bon, voilà, ils partent comme ça. Alors, j'ai eu l'idée de mettre un peu en scène. C'est-à-dire que les Mobutu, c'est une figure dont je me suis inspiré. En fait, là, quand vous voyez bien le contenu du message, c'est tout l'environnement politique africain dans son ensemble qui se retrouve sur les bancs des accusés, en fait.
Voilà. Mais là, c'est une situation spécifique au Congo. Et ce serait intéressant de préciser qui est Mobutu, celui qu'on appelle le roi du Zaïre.
Alors, Mobutu, c'était un personnage, un sacré personnage, qui était à son époque l'homme le plus puissant d'Afrique, en fait. Il y a même un adage, je pense que l'ex-président George Bush, le père, qui disait « si je vais m'adresser à l'Afrique, je m'adresse à Mobutu, en fait ». Donc il représentait un peu cette Afrique-là. Donc Mobutu, c'était l'homme fort, et puis il incarnait un peu cette dictature africaine.
Mais comment est-ce qu'il est devenu cet homme fort? Est-ce qu'il a été soutenu plutôt par les Congolais ou les puissances internationales? Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs le contexte?
En tant que Congolais, je dirais qu'on ne devait pas si puissant par hasard. C'est vrai qu'il avait, vraiment des soutiens. Il avait des soutiens occidentaux. Ça, c'était connu. Et puis, au niveau du pays aussi, c'était un monsieur qui savait bien manipuler son peuple. Donc, je me dis, si je vais trop loin, je peux me dire que c'est quelqu'un qui avait comme sorte, qui souffrait d'une sorte de trouble d'identité. Hein. Donc, il pouvait se montrer à la fois bon et mauvais, intéressant.
Et finalement, quand on parle du culte de la personnalité de Mobutu, qu'est-ce que vous pourriez dire en deux, trois mots à ce sujet? Parce qu'il avait plusieurs noms, dont
oui.
L'aigle de Kawele,
oui.
Les léopards de Kinshasa.
Oui.
Mais comment s'est construit, en fait, finalement, ce culte de la personnalité?
Comme je l'ai dit, c'est vraiment un personnage. C'est quelqu'un qui aimait le folklore. Là. Il aimait les spectacles. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il s'est adjugé de tous ces noms aussi pompés les uns que les autres.
Mobutu oye, alinga se mosala salongo. Iyo Mobutu elima salongo. Iyo Mobutu elombe salongo. Iyo Mobutu mobekise salongo. Iyo Mobutu mobongise fort salongo. Iyo Mobutu mosikoli salongo. Iyo Mobutu le bâtisseur salongo. Iyo Mobutu le créateur salongo. Mobutu oye, alinga se mosala salongo. Mobutu oye.
L'extrait d'un chant et d'un slogan hein, pour Mobutu, le créateur, Mobutu, le sauveur, Daniel.
Qui illustre bien qui était ce personnage. Mais ce qui serait également intéressant, c'est de comprendre au travers du livre, qu'est-ce qu'on a reproché à Mobutu ?
Beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses. C'est que, outre les régimes dictatoriaux qu'il a instaurés, c'est quelqu'un qui a confisqué presque tous les biens et les richesses du pays au profit de sa famille, tant politique que biologique, et puis son laxisme aussi, hein, exaspérant envers ses collaborateurs qui faisaient n'importe quoi. Il y a même des opposants, ses opposants à l'époque qui disaient que lui ne faisait aucune différence entre sa propre poche et la Banque nationale. Donc ça résume tout.
Et là, on parle en fait d'un livre de fiction. Mais oui. Dans la réalité, est-ce que vous pensez que les Congolais auraient souhaité qu'il soit jugé?
Certainement.
Laetitia, vous nous accompagnez également ce soir. Vous êtes très active dans le cadre de la mise en scène de Congo Pips. Mais qu'est-ce que vous faites exactement?
Alors, mon rôle, ce serait peut-être surtout de m'occuper des comédiens de l'équipe et donc de les encadrer, de les accompagner dans ce projet.
Et est-ce que travailler avec des comédiens amateurs, est-ce que c'est difficile?
Alors,
est-ce que ça rend la
pour ma part, j'ai plus souvent travaillé avec des amateurs qu'avec des professionnels. Et moi, je trouve que c'est une approche qui est extrêmement intéressante. C'est très riche de travailler avec des amateurs.
Qu'est-ce que ça vous apprend sur l'homme, de manière générale?
Alors, plein de choses, vu qu'on a affaire à des gens qui sont dans le présent, qui se soucient de leur quotidien aussi. On est une équipe, on a tous des autres jobs à côté, donc c'est toujours très enrichissant de travailler avec des amateurs.
Et vous avez l'impression qu'on y met beaucoup plus d'énergie, justement, parce que c'est en plus un sujet qui parle?
Alors, dans notre équipe, oui, on est tous des gens qui sont très passionnés par le sujet, qui sont engagés, donc c'est vrai qu'on est d'autant plus touchés, ouais.
Lors de notre passage au 2-21 avec Amalia, nous avons eu la chance de pouvoir assister à l'une des répétitions de Congo Pips, entre échauffement et scène d'impro.
Bonjour, bonjour. Votre nom ?
Hydra Poiti.
Oui, alors quelle profession faites-vous, monsieur Poiti ?
Je suis goûteur de larmes pour une grande firme internationale.
Goûteur de larmes, vous avez des questions, un sujet ?
Le Grand Cru, monsieur.
Le Grand Cru, je crois que c'était à la fin du règne de Mobutu, il me semble. Je crois que c'était la famille de Kabila. Des larmes de joie ont beaucoup coulé dans leur maison et elles avaient une saveur incroyable, du champagne.
Donc un extrait de d'une répétition qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps de cette équipe du Congo Pips.
Il y a un mois, donc...
Précisément un mois.
Un mois, précisément. Laetitia, à quoi servent ces scènes d'improvisation ?
Alors, les buts sont divers, hein, mais principalement, c'est de prendre ses marques avec son corps, sa voix, sa présence sur scène et ses émotions afin de pouvoir utiliser tout ça au mieux sur scène après.
Est-ce que c'est difficile, finalement ? On pourrait demander à Hydra.
Oui, Hydra Poiti, pour toi, c'est difficile de jouer une telle scène ?
Alors, au départ, c'était très difficile parce que c'est vrai que les gens font pas mal, les gens qui nous encadrent ont fait pas mal d'impro, donc ils nous ont vraiment initiés à ce truc. Et c'était vraiment très difficile d'improviser comme ça, mais ça devient très grisant et je prends beaucoup de plaisir à ça.
Mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le contexte de ces scènes ? Parce que je veux dire, chacun, vous avez incarné un rôle bien spécifique. Est-ce que c'était télécommandé par Laetitia ou c'était spontané ?
Non, c'était tout à fait spontané. Et justement, on doit quand même essayer de rebondir sur quand même le sujet qui est la pièce. Donc, on doit mêler créativité avec le socle de base qui nous rassemble.
Donc, ça change un petit peu aussi de l'improvisation. C'est du théâtre pur et dur, quoi.
Exact.
Mais on avait quand même le sentiment que vos rôles étaient liés au personnage de Mobutu. Et je me demandais dans quelle mesure, sachant que les rôles à ce jour ne sont pas distribués, s'il faudra avoir un profil particulier pour incarner Mobutu.
Alors, nous, on pense surtout que pour incarner Mobutu, il s'agit d'avoir de la volonté, du charisme, de la présence. Mais après, particulièrement dans notre équipe, on a aussi des femmes qui savent incarner Mobutu très, très bien. Donc voilà, je pense qu'il s'agit de plutôt de traits de personnalité, plus qu'autre chose.
Mais vous auriez l'intention, peut-être, de faire jouer le rôle de Mobutu par les différents acteurs, en fait, qui jouent dans cette pièce ?
Alors c'est un projet, comme on est encore en train d'échafauder tout ça, c'est vrai qu'on se pose plusieurs questions avec Marielle Pinsard. Et Marielle Pinsard a effectivement...
Alors dites-nous, qui est Marielle Pinsard ? On en a très peu parlé, c'est important.
Alors Marielle Pinsard, c'est notre metteur en scène et on est très chanceux de l'avoir, donc on est très content d'avoir Marielle Pinsard avec nous.
Donc on le rappelle, hein, c'est une pièce qui sera jouée, si tout va bien, fin 2015 au Théâtre de 21 à Lausanne.
Oui, début 2016, janvier.
Oui.
Très bien, début 2016 donc, et puis on aura l'occasion assurément d'en reparler tout bientôt. Merci beaucoup Daniel de nous avoir apporté ce projet ce soir, et je remercie également Laetitia Garcia, Germain Dimbézi et Hydra Poiti, ainsi que toute l'équipe de Congo Pips, voilà, de nous avoir parlé de ce projet ce soir. Et tout de suite, on passe avec un extrait musical, un extrait de ce discours historique en version musicale, on l'a dit. Le discours a été prononcé à l'ONU en 1973 et il est encore omniprésent, même 17 ans après la mort de Mobutu.
Les exploités et les exploiteurs, les pays pauvres ne le sont pas par incapacité congénitale. Ils le sont par suite de l'histoire qui a fait que certains pays ont dominé, exploité et pillé d'autres pour s'enrichir. Et c'est de la logique mathématique. Quand le riche exploite le pauvre, le riche devient de plus en plus riche et le pauvre de plus en plus pauvre. De nos jours, il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres. Quand un pays riche donne ne fût-ce qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision. On échange des discours diplomatiques. Les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier. Cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres. Car, disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres. Il n'y a rien de plus faux. Car, si on examine bien, on constate que paradoxalement, l'assistance profite avant tout aux pays donateurs.